Radio Capi. Oh, Capi.
À la présentation du journal, patience Ngaloula.
À la une de ce journal, des réactions fusent de partout à travers les pays après la nomination de Madame Judith Soumi Nwatuluka au poste de Premier ministre de la République démocratique du Congo. Les Congolais attendent beaucoup de la nouvelle chef du gouvernement. Tête à tête hier mardi entre le gouverneur de province, la direction générale des impôts et les opérateurs économiques des Goma. Il était question au cours de cette rencontre de régler les différends entre les deux parties au sujet de la collecte de la taxe sur la valeur ajoutée. L'invité de ce journal est Teba Boila Baelongandi, communicateur de Frivao. Il revient sur la situation d'indemnisation individuelle des victimes des guerres à Kisangani dans la province de la Tchopo plus d'un mois après leur identification. Bonjour, ce journal part du Nord Kivu, où les habitants de la ville de Beni saluent la nomination de la première ministre Judith Soumi Nwa et disent attendre d'elle la restauration de la paix dans cette région touchée par l'insécurité depuis plus d'une décennie. D'autres souhaitent un changement radical dans la gestion de l'État. Ils le disent dans ces micro-trottoirs réalisés par Guylaine Kassassia.
Je pensais à la masculinité positive que le chef de l'État vient de matérialiser. Vous voyez, une mère au foyer, elle prend soin de tous ses enfants. Si on prenait l'exemple du véhicule, la femme conduit bien et on espère que cette dame va bien conduire le pays.
Je me sens très content de voir le président nommer une première femme comme ministre. C'est une parité que le président vient de nous montrer.
Nous sommes d'avis avec le chef de l'État parce que c'est la première expérience. Nous espérons que ça peut amener beaucoup de changements par rapport aux faillites des hommes, que ça soit son point fort.
Comme ici à Bénin, nous souffrons beaucoup, qu'elle puisse quand même montrer sa capacité.
Comme les mamans ont souvent les soucis, les êtres humains, avec cette dame ici, nous pensons bien que le pays ira en avant.
Nous la soutenons, nous les dames. Je sais qu'elle va faire quelque chose qui sera marquant.
C'est une surprise, c'est encourageant. Si elle nous amène la sécurité, on sera derrière elle.
Je ne sais pas si qu'est-ce qu'elle va faire, puisque le Congo est malade.
Je l'encourage, mais il ne faut pas qu'elle soit complexée devant les hommes.
Je suis tellement ravie. La femme, c'est pas quelque chose de faiblesse. On ne voit pas la femme, mais on voit ce qui est dans la femme. La femme est capable.
Pour sa part, la présidente des femmes entrepreneurs de la Fédération des entreprises du Congo dans les Haut-Katanga et initiatrice du réseau pour l'autonomisation de la femme, la nomination de Judith Toulouka est le fruit des plaidoyers longtemps menés par les Congolaises. Ainsi indique-t-elle, pour relever les défis auxquels la RDC fait face, la première ministre doit avoir le main libre. On écoute Aimé Manyong au micro de Jean Gandou.
Nous sommes en train de réaliser que nos plaidoyers aboutissent finalement et que le chef de l'État est sensible à l'article 14 de la Constitution qui consacre la parité et l'accès des femmes aux instances de prise des décisions. Et donc, c'est un signal très fort que nous percevons de sa part. Nous constatons également que les défis à relever sur le plan sécuritaire, sur le plan socio-économique sont des tailles. Il y a un grand travail qui attend Madame Soumi Nwa, mais nous faisons confiance au profil qu'elle a. Elle a également un cursus assez avantageux qui lui donnera toute la capacité de pouvoir se déployer, affûter ses compétences au profit du peuple congolais. Mais ce que nous aimerions, c'est qu'on puisse lui laisser le main libre de pouvoir mettre au profil de la population toute sa compétence, toute son énergie, sa détermination pour montrer de quoi une femme est capable dans un contexte d'un pays démocratiquement jeune et qui a besoin de toutes les ressources de toutes ses filles et de tous ses fils pour sortir la tête de l'eau.
Cependant, la première ministre Judith Soumi Nwa doit rétablir la confiance entre la population, les gouvernants et les institutions. Elle doit rétablir la sécurité non seulement dans l'est de la RDC, mais aussi dans les grandes villes où règnent les banditismes urbains, communément appelés Kuluna. Telle est la réaction de l'ASBL Congo Action pour la diplomatie agissante, CADA en sigle. Son coordonnateur, Eric Kamba, estime que le choix des membres du gouvernement doit être rigoureux pour éviter que certaines personnalités viennent uniquement pour s'enrichir au détriment de la population. On écoute Eric Kamba, joint par Blaise Ndongala Mayanda.
Madame le Premier ministre doit ensuite pouvoir restaurer la confiance et améliorer la sécurité. Il s'agit là essentiellement de rétablir la confiance entre les acteurs politiques et entre les citoyens et les institutions, et le gouvernement aussi. Nous savons que notre gouvernement devra également mettre fin à l'instabilité croissante à laquelle la RDC est aujourd'hui confrontée. Il s'agit ici de la violence liée au phénomène connu à Kinshasa sous le nom de Kuluna. Il y a beaucoup de cas d'enlèvement à Kinshasa, tout comme ailleurs. Mais il y a aussi, et surtout, la guerre à l'Est. Il est important de savoir que Madame le Premier ministre est aussi responsable de la défense nationale, même si souvent les grandes orientations sont fixées par le président de la République. Nous espérons la voir coordonner la préparation et s'assurer de la mise en œuvre de mesures qui peuvent concourir à la stratégie de sécurité nationale.
Poursuivons ces dossiers des réactions en vous informant que la nomination de Madame Judith Soumy-Nwatuluka comme chef du prochain gouvernement vient avec plusieurs attentes et défis. C'est au regard du contexte économique actuel que beaucoup d'économistes jugent instable. Cynthia Bachizi.
Selon le FMI, la RDC est le deuxième pays à afficher une croissance économique à 6% au sein de l'Afrique subsaharienne en 2023. Et la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique classe le pays dans le top 10 des économies africaines à plus forte croissance en 2024. Pour autant, ces perspectives heureuses font face à plusieurs défis dont le plus important est celui lié à l'inflation qui reste très élevée selon le FMI. Il y a donc une hausse générale et durable des prix des biens et des services. Situation qui entraîne une baisse du pouvoir d'achat des Congolais, surtout avec le franc qui dévisse face au dollar américain. Œuvrer à renverser cette conjoncture économique délicate est actuellement l'une des préoccupations majeures lorsque nous sondons l'opinion. L'autre défi de taille sera la relance du tissu industriel. Cela va de pair avec l'amélioration de la connectivité du pays en corrigeant le déficit d'infrastructures routières qui ne favorisent pas l'évacuation de la production agricole excédentaire dans le Congo profond. Pour le patronat congolais, il est surtout question de travailler à assainir le climat des affaires et mettre fin à la multiplicité de taxes dont se plaignent beaucoup d'opérateurs économiques.
Je l'ai dit tantôt dans les titres, le membre de la Fédération nationale des artisans, petites et moyennes entreprises dans la ville de Goma soumise à la collecte de la TVA par la DGI les sont injustement, car aucun arrêté du ministère des tutelles ne l'autorise actuellement, abrogeant l'ancienne loi. C'est ce qu'on peut retenir de la rencontre d'hier présidée par les gouverneurs militaires des provinces entre les opérateurs économiques et les responsables de la DGI en province. La réunion avait pour but d'aplanir les différents entre les deux parties au sujet de la collecte de la TVA. Tony Ndolekitsa explique au micro de Denise Lukeso.
Chaque partie a exposé ce qu'il avait comme problème. Curieusement, parmi tout ce qu'on a exposé, la loi de la part de la DGI que nous les avions demandé n'a pas été trouvée. Les petites entreprises soumises à la TVA actuellement sont injustement amenées aux collectes de la TVA. Parce que la loi est claire là-dessus, qu'avant que l'administration ne prenne la décision de modifier les chiffres d'affaires de quelqu'un, il doit y avoir un arrêté du ministre qui définit cela. L'arrêté, on l'a demandé au directeur de la DGI et l'arrêté n'a pas été fourni. C'est injustement que ces gens sont entrés de collecter la TVA dans des petites entreprises. En fait, c'est par évaluation du chiffre d'affaires d'un contribuable qu'on peut évaluer qu'il a atteint les 80 millions de francs ou plus, tel que la loi le demande pour qu'il soit assujetti aux collectes de la TVA. Mais curieusement, ça n'a pas été ça. C'est pourquoi nous continuons à réclamer, parce que le gouverneur a tout attendu, il a attendu toutes les parties. Ça a été clair, il nous a donné 2 jours pour qu'il se prononce.
Notons qu'en attendant la décision finale de l'autorité provinciale, les activités commerciales ont repris normalement depuis hier lundi sur l'ensemble de la ville. Direction province du Kwilu, où les chefs des secteurs Kobo et les commandants de la police de cette entité du territoire des Gungu sont aux arrêts depuis dimanche. Ces arrestations sont en rapport avec la mort d'un détenu au cachot du sous-commissariat des Kobo. Selon la société civile locale, il s'agit d'une affaire des couples qui a tourné au drame. La même source ajoute que plusieurs maisons des Kobo, chef-lieu de ces secteurs, ont été incendiées par les jeunes gens en colère pour venger la mort de cet homme. Irène Mbomaluzolo pour plus de détails.
D'après le président de la société civile du territoire de Gungu qui livre l'information à Radio Okapi, un homme aurait surpris samedi sa femme en flagrant délit d'adultère avec un autre homme. La femme et son concubin se sont présentés devant le chef du secteur muni d'une machette, prétendant que le mari de cette dernière voulait la tuer. L'homme est arrêté et placé dans les cachots du sous-commissariat de Kobo dans une cellule isolée. Le dimanche, il est retrouvé gisant sur le sol dans sa cellule mort. À côté de lui, une machette posée par terre, explique Joachim Kusamba, président de la société civile locale. Ce dernier exige un procès en flagrance des présumés auteurs de ces meurtres afin d'établir les responsabilités.
Le chef de secteur qui était en fuite et le commandant. Les éléments de la sécurité du territoire de Gungu ont mis la main sur les deux personnalités. La société civile déclare que les deux auteurs soient transférés rapidement pour qu'ils soient jugés en procédure de flagrance pour qu'ils soient condamnés.
Joachim Kusamba ajoute que plus de 30 maisons ont été brûlées dimanche à Kobo par la population en guise de représailles. Cette information est confirmée par plusieurs sources locales qui indiquent que pour l'instant, ce village est totalement vidé de ses habitants en fuite. Irène Boma, Bandundouville, Radio Okapi.
Autre nouvelle, une délégation de la Commission nationale des contrôles des armes légères et des petits calibres est en mission depuis ce mardi dans la ville de Beni, au Nord Kivu. C'est pour procéder au marquage d'armes portées par les forces de défense de sécurité, mais aussi les armes détenues légalement par les civils. Cette délégation a rencontré le maire intérimaire de Beni et les responsables locaux en charge de la sécurité. Au sortir de ces entretiens, John César Bofaka Bakambo, directeur national de la CNC-ALPC qui conduit la mission, a parlé de l'importance de cette opération. Il est au micro de Marc Marofimbo.
L'objectif de ces opérations, c'est d'abord d'une part de donner une identité unique à toutes les armes qui sont détenues par nos forces de défense et de sécurité. Et aussi de faire une très bonne traçabilité des armes jusqu'aux utilisateurs finaux. Donc, dans le déroulement de ces opérations, nous sommes sûrs que le gouvernement aura tous les atouts. Que quand une arme a été découverte quelque part ou qui a commis un forfait, désormais le gouvernement aura les indicateurs nécessaires pour définir qui doit être le détenteur illégal ou le détenteur légal de cette arme, qui devait être l'utilisateur final de cette arme-là, c'est ce qui nous donnera un cursus pour la bonne traçabilité de ces armes-là. On veut lutter contre la prolifération des armes légères de petit calibre où la population congolaise a beaucoup souffert, surtout ici dans la ville de Beni. Tout détenteur illégal d'armes qui commet des forfaits est un acteur de la violence armée. Et nous voulons réduire substantiellement cette violence armée et qui passe bien sûr par des possibilités, des opérations qui s'appellent de marquage d'armes.
Et puis, il y a une avancée significative de la participation de la femme dans différents secteurs de la vie dans la province du Tanganyika. Propos tenus ce mardi à Kalemie par le chef des bureaux de la division provinciale du genre. C'était en marge de la clôture du mois de la femme dans les Tanganyika. Théophile Boulembe a constaté que de plus en plus de femmes sont actives, notamment dans la politique. Il est dit au micro de Pauline Munanga.
Je peux parler en termes d'indicateurs parce que ce que nous avons constaté, par exemple, pendant la période des élections, nous avons vu que beaucoup de femmes du Tanganyika se sont lancées en politique. Nous avons vu des candidates députées provinciales et nationales, bien entendu, même si le taux de résultat est faible, mais quand même, il y a des femmes qui sont devenues nouvellement des députées. Ça, c'est quelque chose que nous sommes en train d'encourager. Et au-delà de ça, au niveau des Kalemie, il y a des femmes qui ont eu des projets avec Onifam, à Centre Carter, et nous sentons qu'aujourd'hui, d'aujourd'hui, il y a même une cellule de femmes formatrices dans plusieurs domaines au niveau du Tanganyika. Et ça, c'est l'œuvre vraiment de la division provinciale du genre famille et enfants. Parce que la femme d'aujourd'hui, ce n'est pas une femme qu'on peut encore la déconsidérer qui a de cela 20 ans. Vous avez vu vous-même les réactions, les interventions des femmes dans la salle. Vous sentez qu'il y a quand même il y a un plus au Tanganyika. Négliger aujourd'hui l'égalité des sexes, c'est être voué à l'échec. Parce que nous devons faire par tous les moyens de conjuguer les efforts entre les hommes et les femmes pour aller de l'avant.
Actualité internationale.
La présidente du Parlement sud-africain risque une arrestation imminente pour corruption après qu'un tribunal ait rejeté mardi sa demande d'empêcher la police et les procureurs de l'arrêter. Nosiviwe Mapisa Nkakula, membre éminent du parti au pouvoir, le Congrès national africain, est accusé d'avoir reçu des pots de vin de la part d'une entreprise du secteur de la défense alors qu'il était ministre de la Défense.
L'invité.
Dans la province de la Tchopo, les victimes des guerres s'impatientent au sujet du retard que prend leur indemnisation individuelle. À cet effet, certains notables vont jusqu'à appeler les victimes à demander des comptes au FRIVAO ou au besoin se prendre en charge. Plus d'un mois après l'identification des victimes, quel est l'effectif retenu et à quand les débuts effectifs de l'indemnisation individuelle des victimes des guerres de Kisangani? Deba Boila Bayelongandi, communicateur des FRIVAO, s'entretient avec Jacques Moukonkole.
Deba Boila Bailongandi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes communicateur de FRIVAO. Les victimes des guerres de Kisangani sont inquiets par rapport à leur indemnisation. À quand cette indemnisation individuelle?
Comme toujours, nous demandons aux victimes d'avoir encore un peu de patience. Je crois que FRIVAO vient de finir de traiter les dossiers de retardataires et le critérium exigé par les conseils d'administration, c'est déjà prêt aussi. C'est renvoyé d'ailleurs au niveau du conseil d'administration à Kinshasa et c'est pour bientôt l'indemnisation. C'est comme à la dernière communication de Mme secrétaire rapporteur, Mme Mimi Mopunga. Elle avait dit que c'est dans un mois ou un mois et demi, les victimes seront indemnisées.
Vous avez procédé bien avant à l'identification de ces victimes de guerre de Kisangani. Au finish, combien de victimes ont été retenues?
Jusque là, nous avons enregistré plus de 14 000 victimes. La liste déposée par l'association était de 17 000. Comme FRIVAO exigeait la présence physique de chaque victime, au finish, il y a eu 14 000 victimes qui se sont présentées physiquement.
Vous ne recevrez plus personne, vous avez arrêté la liste à ce niveau-là.
Le travail était arrêté le 26 janvier. Les conseils d'administration avaient constaté qu'il y avait encore des retardataires, c'est pourquoi on avait ouvert une brèche pour récupérer ces retardataires. Au mois de janvier, ils étaient au nombre de 12 000. Après récupération des retardataires, que nous sommes arrivés à 14 000. Et c'est clôturé.
Certaines victimes sont inquiètes du fait que leur argent serait en train de disparaître petit à petit avec de multiples voyages que les membres de votre comité sont en train d'entreprendre. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire?
FRIVAO est un établissement public de l'État qui fonctionne avec l'argent du budget ou du contribuable congolais. Ça n'a rien à voir. Les autorités de FRIVAO n'ont pas les droits de toucher à l'argent qui sont versés par l'Ouganda, par l'entremise de la Cour internationale de justice. Il y a une interdiction formelle. Donc, FRIVAO fonctionne avec l'argent du contribuable congolais, donc avec l'argent du budget de l'État congolais.
Il y a un montant important que le FRIVAO avait remis à l'OVDA et à la SNEL. D'où est venu cet argent?
Dans l'argent versé par l'Ouganda, il y a des quotités. C'est 325 millions de dollars. Dans les 325 millions, 225 millions, c'est pour l'indemnisation individuelle et collective. 60 millions, c'est pour les dommages causés aux biens. Et 40 millions, c'est pour les dommages afférents aux ressources naturelles. L'argent pour les dommages afférents aux ressources naturelles et pour le dommage afférent aux biens, c'est la quotité de l'État congolais. C'est dans cette quotité-là que l'État avait puisé pour donner l'argent à la SNEL et à l'OVDA pour les travaux à intérêt communautaire.
Un notable met en cause la gestion de FRIVAO et appelle les victimes de guerre à vous demander des comptes ou tout simplement à se prendre en charge. Qu'en dites-vous?
Personnellement, j'ai beaucoup d'estime pour cette notabilité parce que c'est un ancien honorable, quelqu'un qui a même assumé à un certain moment, il était rapporteur de l'Assemblée provinciale, tout ça. Il est lui-même victime des guerres. Il est venu se faire enregistrer ici et se faire identifier ici à FRIVAO. Si, avant de balancer l'information, la moindre des choses pour lui était que de venir à la FRIVAO, se ressourcer, prendre la bonne information et mettre à la place publique. Ce qu'il a fait là, ce sont des informations qui ne sont pas correctes. La manière dont il a agi, ce n'est pas bien. Il devrait commencer par venir prendre la bonne information et la mettre à la place
publique. Alors quel message pouvez-vous adresser aux victimes de guerre de Kisangani?
comme toujours, nous leur demandons de continuer à faire confiance à cet établissement public créé par l'État, où le numéro 1 de cet établissement est l'un des victimes de guerre de la ville de Kisangani, PCA Bernard Kalombola. Et le numéro 2, le cordon, c'est un prêtre de notre ville de Kisangani, donc le Monseigneur Mouarabou. Le Frivao est en train de faire le travail comme demandé par les décrets et la Cour internationale de justice. On leur demande de patienter seulement un peu, nous sommes presque à la fin, bientôt là, et ils seront certifiés, ils auront leur argent.
Deba Boila Bailongandi, merci.
C'est à moi de vous remercier.
Et c'est la fin de ce journal, mis en onde par Alain Goy, supervisé et coordonné par Alain Hurung et Jude Bilanda. Patience Ngalula Banangé était à la présentation. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi.